est midi et demi. Midi jusqu'à 13h15, c'est avec vous Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition d'Europe Midi avec à la une Marisol Touraine qui rebouche le trou de la Sécu. D'après la ministre, les comptes de la Sécurité sociale se sont tellement redressés que le trou pourrait ne plus exister l'an prochain. A-t-elle raison d'être aussi optimiste? C'est ce que nous verrons dès le début de ce journal. Au passage, je vous annonce une hausse du prix du tabac roulé de 15%. Cette fois, c'est fait, c'est signé. L'Inde a acheté ce matin 36 avions Rafale à la France. C'est simple, c'est le plus gros contrat jamais signé dans l'aéronautique français. Nous serons à New Delhi. Dans ce journal, une attaque gigantesque. 500 millions de comptes mail Yahoo piratés. Qu'ont volé les hackers? On en parle dans un instant. Et surtout, peut-être, peut-on être complètement en sécurité sur Internet? Ce sera le débat d'Europe Midi. La justice va-t-elle vraiment réclamer 4,9 milliards à Jérôme Kerviel? Réponse cet après-midi. Et puis, ceci n'est pas Europe Midi. Expo surréaliste à Beaubourg, Expo Magritte, visite en avant-première. La météo, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Cet après-midi, il fait doux et c'est plus ou moins ensoleillé.
Absolument, c'est une après-midi effectivement agréable, lumineuse, même si le ciel est plus voilé du Pays Basque à la région lyonnaise et que c'est plus orageux aussi. En fond de chaîne sur les Pyrénées en toute fin de journée, les températures sont légèrement en hausse par rapport à celles d'hier avec des valeurs entre 17 à Cherbourg et 27 à Avignon.
Météo complète avec Valérie Darmon juste avant 13h. Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi, Maxime Switek.
C'était une vieille demande des associations de lutte contre le tabagisme, une vieille demande que le gouvernement a donc finalement entendue. Ce matin, sur Europe 1, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, l'a annoncé. Les taxes qui pèsent sur le tabac à rouler vont augmenter.
La fiscalité sur le tabac à rouler va être alignée sur celle des autres produits parce que nous avons remarqué, mais c'est une évidence, que c'est par ce biais que souvent les jeunes, la plupart du temps, rentrent dans la consommation.
Donc c'est une hausse de combien
pour le tabac à rouler ? Une hausse d'un peu plus d'un euro sur un paquet de tabac à rouler.
Donc ça fait 15% à peu près, c'est ça ?
À peu près 15%. Ça sera le même taux de fiscalité. Aujourd'hui, c'est anormal. Le taux de fiscalité sur les paquets, sur les produits finis, j'allais dire, est supérieur à celui sur le tabac.
Donc il y aura la même fiscalité sur le tabac à rouler et sur le paquet de cigarettes.
Exactement.
Christian Eckert, invité de Thomas Soto dans la matinale d'Europe 1, vous l'avez entendu, pas de hausse prévue des taxes sur les cigarettes classiques. En revanche, plus 15% pour le tabac à rouler, ce qui devrait faire rentrer environ 100 millions d'euros dans les caisses de l'État. C'est une des mesures prévues dans le projet de budget de la Sécurité sociale qui est présenté aujourd'hui. Un budget qui, d'après la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine, sera quasiment à l'équilibre l'an prochain. Seulement 400 millions de déficits envolés, ou presque donc, le trou de la Sécu. Olivier Samin, ça n'est pas arrivé depuis 15 ans.
Oui, 400 millions de déficit rapportés aux 500 milliards d'euros de dépenses annuelles de la Sécu. Effectivement, c'est l'épaisseur du trait. Alors, pour arriver à ce quasi-équilibre, le gouvernement mise du côté des recettes sur une nouvelle hausse des rentrées de cotisations. Et oui, plus de création d'emplois, c'est plus de salariés qui cotisent. Et du côté des dépenses, il mise sur la poursuite des résultats positifs déjà engrangés cette année. Résultats positifs du côté de la branche vieillesse, qui est en excédent pour la première fois depuis 12 ans. Du côté de la branche famille et du côté aussi de la branche maladie, même si là, il y a encore de gros efforts à faire. En 2017, 4 milliards d'euros d'économies sont programmés sur cette seule branche maladie. Alors, exemple d'économie, on va inciter encore plus les Français à choisir les médicaments génériques, on va continuer à développer la chirurgie ambulatoire qui coûte moins cher que l'hospitalisation, et puis on va renforcer les achats groupés des hôpitaux. Ces économies seront d'autant plus importantes à réaliser que dans le même temps, deux nouvelles dépenses vont peser lourdement sur les comptes. D'abord la hausse de la consultation des généralistes qui va passer à 25 euros le 1er mai prochain, et puis la hausse du point d'indice des fonctionnaires qui va coûter cher aux hôpitaux.
Explication d'Olivier Samin. Bonjour Gérard de Pouvourville.
Bonjour.
Vous êtes économiste de la santé, professeur à l'ESSEC. Sans entrer trop dans le détail des chiffres, Gérard de Pouvourville, est-ce que vous y croyez, vous, à la fin, dès l'an prochain, du trou de la Sécu?
Alors, je vais me contenter de l'assurance maladie, si vous le permettez.
Oui.
Il n'y a pas véritablement de surprise. Depuis 2008, en fait, on sait qu'en gros, avec un taux de croissance de l'ordre de 2% du PIB, et compte tenu de la réussite en fait de la maîtrise des dépenses remboursées, du fameux ONDAM, avec 2% de taux de croissance, l'assurance maladie équilibre ses dépenses et ses recettes. Quand Madame la ministre annonce 4 milliards d'économies, Il faut savoir qu'en fait, ces 4 milliards d'économies, dont une partie sont réelles et l'autre partie est virtuelle, on pourrait dire. C'est-à-dire que le 4 milliards d'économies, c'est une estimation à partir de ce que seraient les dépenses de l'assurance maladie si on faisait rien.
Ah oui, d'accord.
Et ce qu'on souhaite atteindre. Hein. Donc c'est toujours un peu virtuel. Hein,
est-ce que ce redressement des comptes, il se fait sur le dos des patients ?
Non, il ne se fait pas sur le dos des patients. Les comptes de la santé qui ont été publiés récemment montrent que le reste à charge, en fait, le reste à charge pour les patients diminue au cours du temps. Il n'y a pas eu de déremboursement massif au cours du dernier quinquennat, c'est tout à fait exact. Les problèmes pour les patients, les problèmes ne sont pas des problèmes d'accès financier, sauf peut-être pour les soins dentaires. C'est plutôt maintenant aujourd'hui des problèmes d'accessibilité géographique, hein, c'est plutôt les questions de désertification de certaines zones sur le territoire que des problèmes à strictement parler d'accès financier.
Alors je vais vous poser quasiment la même question, mais est-ce que ce redressement des comptes de la Sécurité sociale, il se fait sur le dos des professionnels de santé ?
Il ne se fait pas sur le dos des médecins libéraux, il se fait sans doute sur le dos des établissements hospitaliers, ça fait à peu près 3 ans ou 4 ans de suite que les tarifs hospitaliers publics augmentent très très peu. Les tarifs hospitaliers privés ont même plutôt diminué. À peu près deux cliniques privées sur cinq sont en déficit. Et il reste quand même un déficit cumulé important des établissements hospitaliers publics. Mais ça n'apparaît pas dans les comptes de l'assurance maladie. L'assurance maladie, elle compte ce qu'elle paye aux hôpitaux. Mais le déficit cumulé des hôpitaux publics reste à la charge de l'État.
Ça veut dire qu'il y a des déficits cachés ?
Ils ne sont pas cachés, ils sont dans les comptes des hôpitaux publics, ils apparaissent dans la dette de l'État, mais ils n'apparaissent plus dans la dette de l'assurance maladie.
Et ce sont encore aux hôpitaux qu'on va demander de faire de gros efforts ?
Aux hôpitaux et aux laboratoires pharmaceutiques. Hein, sur le plan d'économie, il y a 1,4 milliard qui est prévu principalement sur la dépense de médicaments par des mécanismes divers. Hein, l'augmentation de la pénétration des génériques, mais aussi une régulation des prix qui est très efficace en France, en fait, hein, sur le prix des médicaments.
Merci beaucoup, Gérard de Pouvourville. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, professeur à l'ESSEC. Vous étiez en direct avec nous sur Europe 1.
Il est 12h37, Europe Midi, la suite du journal, Maxime Switek.
Il aura fallu attendre 9 ans, 9 longues années de discussions, de négociations, d'allers-retours, d'espoirs déçus, avant que finalement, ce matin, l'Inde signe officiellement un très gros contrat avec la France. L'Inde va acheter à Dassault 36 avions de combat Rafale pour 8 milliards d'euros. Jamais un groupe aéronautique français n'a reçu une commande aussi importante. La signature a eu lieu ce matin donc à New Delhi, où on vous retrouve pour Europe 1, Didier François. Didier, signature en grande pompe.
Oui, effectivement, on est en Inde, un pays aux fortes traditions militaires, avec des uniformes chatoyants, et on a donc eu droit à des cérémonies officielles qui avaient beaucoup de cachets. Hein. D'abord, la signature du contrat entre les deux ministres dans la salle d'honneur du ministère de la Défense, qui est un palais en pierre rouge des années 1910, un style très impérial, le tout suivi d'une prise d'armes avec un dépôt de gerbes devant la fameuse porte d'Inde, qui est l'arc de triomphe de New Delhi, ce qui est symbolique de l'importance qu'accordent les Indiens à cet accord. Pour eux, comme pour la France d'ailleurs, c'est bien plus qu'un simple contrat commercial. C'est en fait un engagement à une véritable coopération militaire sur plusieurs années dans une région, l'Asie et l'océan Indien, qui est extrêmement stratégique. Donc non seulement cette vente de 8 milliards d'euros est la plus importante jamais réalisée par l'industrie aéronautique militaire française, mais elle va être regardée de très près par de nombreux pays de la région qui ont des alliances avec l'Inde et qui pourraient se tourner à leur tour vers la France, vers Dassault, pour renforcer leurs aviations de chasse.
Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Inde, merci Didier. Ce contrat indien, on le comprend, il en appelle sans doute d'autres. C'est en tout cas ce qu'espère le PDG de Dassault, Éric Trappier.
Il y a une grosse demande de la part de l'armée indienne, et de l'armée de l'air indienne en particulier. Ceci dit, aujourd'hui, évidemment, on se concentre sur ces 36, mais on se prépare aussi à un grand futur, et c'est d'ailleurs pour ça que nous souhaitons avoir des partenariats très forts avec les industriels indiens.
Est-ce que vous pressentez ou prévoyez un accord avec les Émirats arabes qui auraient besoin de 60 Rafales ?
On continue à travailler dans beaucoup d'autres pays. Je cite par exemple la Malaisie, les pays du Golfe aussi, bien évidemment, comme vous venez de le dire. Donc c'est un travail qu'on a débuté il y a déjà de nombreuses années, qu'on poursuit. Je pense que le maître mot de notre métier, c'est la patience à côté de la performance de nos ingénieurs, la patience de nos équipes commerciales.
La patience du PDG de Dassault, Éric Trappier, qui était l'invité ce matin de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1.
Europe 1, il est 12h40. Europe Midi se poursuit dans deux minutes avec vous, Maxime Switek.
500 millions de comptes Yahoo piratés. Mais piratés par qui et pour voler quoi? À tout de suite.
Europe Midi revient dans un instant. Europe Midi.
Il est 12h44, la suite d'Europe Midi. Maxime Switek avec donc cette gigantesque attaque informatique.
Elle remonte à 2014, mais on ne l'a appris que la nuit dernière. 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés. Des boîtes mail, on va en parler avec vous, François Geffrier. François, est-ce qu'on sait ce qu'ont volé les hackers?
Alors, beaucoup de choses qui étaient enregistrées dans ces comptes d'utilisateurs. Donc, leur nom, leur adresse email, leur numéro de téléphone, leur date de naissance aussi. À peu près tout d'important, sauf... Heureusement, les informations bancaires, en tout cas Yahoo, explique que les numéros de carte bleue, par exemple, sont stockés sur une autre base de données que celle qui a été piratée. Yahoo indique aussi que les pirates sont probablement liés à un État, sans donner plus de précision. Ça tombe mal, en tout cas, pour cette entreprise qui doit être rachetée par le groupe américain Verizon. Il se dit que le montant de cette vente, normalement 5 milliards de dollars, pourrait être rabaissé.
Est-ce qu'il y a des boîtes mail françaises dans le lot?
Eh bien, Yahoo ne donne pas ce détail, mais c'est assez probable. 500 millions de comptes, c'est l'une des plus grandes intrusions informatiques jamais vues. On sait que Yahoo avait dépassé le milliard de comptes d'utilisateurs en 2012. En France, l'outil Yahoo Mail, notamment, est assez utilisé, y compris par des personnes dans ce studio.
Absolument,
Maxime Manissa, Sébastien Guyot.
Oui.
Je ne dénonce personne. Et vous saurez assez vite si vous êtes concerné par ce piratage, car Yahoo est en train de prévenir les utilisateurs piratés. Justement, je crois que Anissa a eu un message
en leur
envoyant une petite notification ou un email. En tout cas, si vous avez le moindre doute, il faut modifier votre mot de passe et surtout ne pas utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes d'utilisateurs, Facebook, Twitter, etc. sur Internet.
Merci pour ces explications, François Geffrier. Cette affaire Yahoo, elle nous a inspiré le thème du débat d'Europe Midi tout à l'heure à 13h05. Peut-on être complètement en sécurité en allant sur Internet? Débat dans une vingtaine de minutes.
Et vous pouvez réagir et témoigner, bien sûr, si vous-même vous avez été victime de ce piratage et de cette attaque informatique. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag E1Midi ou vous nous appelez au 39 21, 50 centimes la minute.
Mais avant cela, retour sur un drame qui s'est produit il y a un tout petit peu plus d'un an, début septembre 2015. Un incendie très violent se déclare dans un immeuble de la rue Mira à Paris. Le bilan est lourd, 8 morts, un suspect très vite arrêté, un SDF placé en détention. Peut-être à tort, un an après, les enquêteurs Sébastien Guyot tiennent un autre suspect qui lui a avoué.
Oui, il s'agit d'un ancien locataire d'une vingtaine d'années. Il a reconnu avoir mis le feu à des papiers dans le hall de l'immeuble, puis enflammé une poussette. L'immeuble de cette rue très populaire de Paris qui s'était ensuite embrasé, bilan terrible, vous l'avez dit, 8 morts, le plus lourd à Paris depuis 2005. Alors aux enquêteurs, l'homme dit ne pas se souvenir de tout, mais il a été mis en examen et écroué hier soir. Conséquence, le suspect numéro 1, qui était en prison depuis un an, a été libéré. C'est un ancien SDF qui traînait dans le quartier, tout le désignait à l'époque. Il avait été vu le soir de l'incendie, rôdant autour de l'immeuble, avec une bougie et un briquet à la main. Des indices accablants, certes, mais aucune preuve, ce que déplore son avocat Maître Fortin.
Une fois qu'on lui a demandé, c'est bien vous? Non. Vous avez des briquets? Bah oui, j'ai des briquets, mais c'est juste parce que j'ai besoin de m'éclairer et aussi parce que j'ai des briquets en souvenir, parce que c'est des totems pour moi. Donc c'est pour ça qu'en un an, il a été interrogé une fois. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, il n'y a pas une trace ADN quelque part, il n'y a pas rien, quoi.
L'homme a donc quitté la prison de Fresnes. Pour les proches des victimes que j'ai pu joindre, c'est à la fois un soulagement de connaître le coupable présumé, mais au-delà de la stupeur et de la colère, ils se sentent trahis également, car c'est lui qui avait organisé le mois dernier une commémoration en hommage aux victimes. Il avait même payé des billets de train à des proches pour qu'ils viennent y participer.
Information Europe 1 de Sébastien Guyot.
Europe 1, il est 12h48, Europe Midi, la suite du journal, Maxime Switek.
C'est une question à 4 milliards 900 millions d'euros. La justice va-t-elle vraiment demander à Jérôme Kerviel de rembourser cette somme? La question doit être tranchée dans trois quarts d'heure maintenant par la cour d'appel de Versailles. Alain Coe, cet après-midi, c'est peut-être la Société Générale qui a beaucoup à perdre.
Et beaucoup plus que Jérôme Kerviel qui lui a tout à gagner ou presque, car même s'il est à nouveau condamné, il ne pourra jamais payer évidemment les 4 milliards 9 de dommages et intérêts. Tout le monde le sait, y compris la banque, qui a d'ores et déjà renoncé à engager une procédure de recouvrement contre son ancien trader. Si la Société Générale a du souci à se faire, comme vous dites, c'est parce que lors du procès, à la surprise générale, Elle s'est fait étriller dans le réquisitoire pour les imperfections et les failles de son organisation interne. Pour l'avocat général, ce n'était pas de simples négligences, mais des fautes intentionnelles qui ont rendu possible la fraude et en ont aggravé les conséquences. En clair, si Kerviel est coupable, la Société Générale est responsable du préjudice qu'elle a subi. Du coup, si jamais la Cour d'appel de Versailles décide tout à l'heure de suivre ce réquisitoire, eh bien Kerviel n'aura absolument rien à payer, pas un sou. Bien évidemment, du côté de la banque, on se refuse à croire à une décision aussi radicale. Mais son avocat, Jean Veil, envisage une autre solution qui serait une demi-défaite tout de même.
Il est possible que la Cour d'appel de Versailles puisse considérer que les contrôles étaient insuffisants. Mais ça n'était pas volontaire, c'est donc une faute involontaire à comparer avec la faute volontaire et le délit qui a été commis par M. Kerviel. Alors il est possible que la Cour d'appel réduise de 10% les dommages-intérêts de M. Kerviel, peut-être de 20%, peut-être de 30%, nous verrons bien ce qu'il en est. Tout ça n'est pas extrêmement inquiétant, d'autant plus que M. Kerviel est incapable de payer ni 4,9 milliards, ni même 50%, donc c'est discuté du sexe des anges.
Alain, on entend ce que dit à l'instant Maître Jean Veil, mais c'est une journée à risque aussi pour la Société Générale, parce qu'il y a un enjeu fiscal dans cette affaire.
Et oui, parce qu'après avoir perdu près de 5 milliards d'euros, bien la Société Générale, au titre des sociétés déficitaires et victimes d'une fraude, a bénéficié d'une déduction fiscale colossale, 2,2 milliards d'euros. Et ses adversaires, aujourd'hui, estiment qu'elle devrait rembourser si la justice estime qu'elle est responsable de ce préjudice. Ce matin, sur Europe 1, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, a annoncé que les services de Bercy allaient lire attentivement les attendus du jugement et prendre une décision par la suite.
Merci pour ces explications, Alain Acco. Une information en bref dans ce journal. Jean-Marc Morandini doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. L'animateur vient de passer 48 heures en garde à vue dans une affaire de corruption de mineurs. Il a été déféré ce matin au palais de justice de Paris.
Europe 1, il est 12h50. Europe Midi se poursuit dans deux minutes avec vous, Maxime Switek.
Et avec un vrai problème pour le parti des Républicains. Il manque de bras pour organiser sa primaire. A tout de suite.
Europe Midi revient dans un instant. Europe Midi.
Il est 12h54, la suite d'Europe Midi avec vous, Maxime Switek.
Si nous continuons comme ça, nous allons vers la guerre civile. Déclaration d'Alain Juppé dans une longue interview au journal Le Monde. L'ex-premier ministre appelle les candidats à la primaire à calmer le jeu sur la question de l'islam. À propos de cette primaire, les Républicains voient poindre un gros problème à l'horizon. Il y aura plus de 10 000 bureaux de vote répartis dans toute la France, ce qui nécessite plusieurs dizaines de milliers d'assesseurs pour tenir ces bureaux. Mais Aurélie Herbemont, visiblement, mais c'est un vrai souci dans certains départements.
Oui, des chasseurs d'assesseurs l'avouent. On rame, c'est un vrai souci. Il faut au moins 4 personnes par bureau pour s'occuper du vote et de la caisse, puisque les électeurs doivent payer 2 euros, mais ça, c'est le minimum car tout le monde ne va pas rester de 8h à 19h. Donc il faut plus de bras pour tourner, d'où le casse-tête. Quelques exemples. Dans le Vaucluse, seulement 300 militants sont vraiment actifs. Il y a 99 bureaux, faites le calcul, il manque au moins une centaine de personnes. Dans l'Essonne, seulement 30% des bureaux de vote affichent complet. Du côté des Ardennes, il y a pléthore de volontaires à certains endroits et personne ailleurs. Il faut donc convaincre les assesseurs d'aller en renfort loin de chez eux. C'est un boulot de dingue, confie une organisatrice. Alors pour finir le recrutement, en Vendée, on a choisi de téléphoner aux amis et aux amis d'amis. Dans la Manche, un appel à volontaires est lancé ce matin dans la presse locale. Et dans le Doubs, eh bien, on élargit vraiment les recherches. Il y aura une distribution de tracts dimanche dans les boulangeries.
Aurélie Herbemont, ce sera l'une des expos phares de cette fin d'année. Magritte à Beaubourg, grande exposition consacrée au peintre surréaliste belge. Vous connaissez sans doute sa toile la plus célèbre, Ceci n'est pas une pipe. Diane Chenouda, vous avez vu cette exposition à l'avant-première. Beaubourg attend évidemment énormément de monde. Il faut dire que Magritte est tellement connu que même ceux qui sont allergiques à la peinture le connaissent.
Et oui Maxime, tout le monde connaît Magritte, même ceux qui ne le connaissent pas, car tout le monde a vu un jour une carte postale ou un poster de Magritte. Le tableau le plus célèbre, vous l'avez dit, Ceci n'est pas une pipe est dans l'expo, et c'est bien plus fort de le voir en vrai. Le commissaire Didier Ottinger l'a ramené de Los Angeles.
Là, vous avez une image et un texte qui vous explique que ce que vous voyez n'est pas l'image que vous croyez voir.
Et Magritte répondait que ce n'était pas une pipe puisque c'était un tableau. Avec lui, c'est le poids des mots, le choc des images, comme ce parapluie surmonté d'un verre d'eau, ces hommes au chapeau melon qui flottent dans les nuages ou encore cette colombe posée sur un visage de femme, des tableaux icônes en effet multipliés à l'infini sur cartes postales, posters et détournés par les publicitaires. Faut dire que Matisse venait lui-même de la pub.
Une affiche publicitaire doit être lisible quand vous passez à 100 à l'heure avec une voiture, à 30 mètres de distance. Et ce savoir-là, Magritte l'a absolument peaufiné. Et les images qu'il nous produit aujourd'hui sous la forme de tableaux ont l'efficacité et le caractère absolument percutant d'une excellente image publicitaire.
Magritte, bien sûr. Hein, je voulais dire Magritte. Chaque toile est un plaisir pour l'œil et pour l'esprit. Il y a les icônes et les pépites. Près de la moitié des toiles proviennent des collections privées.
Exposition Magritte au Centre Pompidou. C'est jusqu'au mois de janvier, si je ne me trompe pas.
Oui, jusqu'au 23.
Merci Diane Chenouda. Dans une seconde, la météo.
Vous écoutez Europe 1. Il est 13h. L'essentiel de l'actualité, Maxime Switek.
Et à la une pharmacienne soupçonnée d'être à l'origine d'une gigantesque escroquerie. Ça se passe à Saint-Fons, dans la banlieue de Lyon. Une arnaque à l'assurance maladie, des ordonnances falsifiées, des fausses factures. Jean-Luc Bougeon, vous êtes en direct de Lyon avec nous. Jean-Luc, la Sécu se serait fait escroquer de plus de 2 200 000 euros.
Oui, c'est un montant colossal détourné en seulement 2 ans, de 2013 à 2015, qui montre que cette pharmacienne escroquait à tour de bras, on peut presque dire à l'échelle industrielle. Sa méthode, eh bien, soit elle falsifiait les ordonnances, c'est-à-dire qu'elle gonflait les prescriptions pour obtenir de plus gros remboursements, soit carrément elle établissait de fausses factures sans aucune prescription. Le tout donc au préjudice de l'assurance maladie, dont les techniciens ont quand même fini par s'apercevoir par recoupement qu'il y avait un problème. Ils ont donc alerté la police en juin dernier. La brigade financière qui a mené son enquête, explique le commissaire Jean-Marc Rebouillat de la Sûreté de Lyon.
Nous, dans des cas comme ça, on diligente une enquête patrimoniale. On établit que sur 8 comptes bancaires, elle a une somme d'1 350 000 euros. Et elle a des explications très fumeuses, hein, disant que c'est des incohérences qui sont dues à la CPAM. Et puis elle expliquait son chiffre d'affaires anormalement élevé par une augmentation de patientèle parce qu'elle pratique la langue arabe et qu'elle a des horaires d'ouverture très larges.
Voilà, 1 300 000 euros sur des comptes bancaires, mais pas de signe extérieur de richesse, pas de grosse voiture, pas de belle maison avec piscine. Pour cette pharmacienne qui cachait donc bien son jeu. Pire, elle avait même réussi à devenir allocataire du RSA et bénéficiaire de la CMU, ce qui est quand même incroyable. On se dit, où sont les contrôles? Elle a été présentée à un juge ce matin.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, et cette affaire, elle tombe juste au moment où le gouvernement présente le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2017, avec un objectif qu'on croyait illusoire. Marisol Touraine affirme que le trou de la Sécu pourrait disparaître dès l'an prochain. Pour la ministre des Affaires sociales, le déficit de ce qu'on appelle le régime général, maladie, retraite, etc., ce déficit pourrait être autour de 400 millions d'euros en 2017, c'est-à-dire 3 milliards de moins que cette année. Un autre chiffre, 8 milliards d'euros, 8 milliards de contrats pour Dassault, contrat officiellement signé ce matin en Inde. Les Indiens vont acheter 36 avions de combat Rafale. L'usine de Dassault à Mérignac, à côté de Bordeaux, voit donc son carnet de commandes s'épaissir. Le maire de Mérignac, Alain Anziani, en est évidemment ravi.
C'est évidemment une très bonne nouvelle, non seulement pour la ville, mais en réalité pour toute la région, pour tout notre pays. 36 rafales, c'est évidemment beaucoup d'emplois. On sait que la totalité des commandes nouvelles, c'est environ 1000 emplois. Tous les rafales qui volent dans le monde sont assemblés à Mérignac. Donc ça fait travailler beaucoup de monde, en dehors même du personnel d'Assaut Aviation, sous-traitant, qui était inquiet. Parce qu'on sait que, bah oui, l'aéronautique est évidemment en pointe, mais que par exemple les Falcon, qui est l'autre produit de chez Dassault, connaît aujourd'hui des difficultés. Donc c'est vraiment pour nous une solution qui nous assure pendant plusieurs mois, j'espère plusieurs années, un plan de charge qui permettra de maintenir et de développer l'emploi.
Le sénateur maire de Mérignac avec Jean Berthelot pour Europe 1. Le Brexit, les choses sont en train de se préciser. Le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson a annoncé hier soir que son pays engagerait formellement la procédure de divorce avec l'Union européenne début 2017, dans quelques mois. Donc on sait que les Anglais ont beaucoup traîné jusqu'à maintenant, mais là, on se rapproche de la séparation. Isabelle Horry, on va en parler avec vous. Vous êtes en direct de Bruxelles pour Europe 1. Isabelle, à Bruxelles justement, on se prépare en coulisses dans une ambiance un peu étrange.
Oui, d'ailleurs, ici, on a trouvé un nom hein, pour cette période bizarre qui a commencé le lendemain du référendum et qui va donc durer a priori jusqu'en janvier. C'est la drôle de guerre, comme en 39-40, quand la guerre était déclarée, mais que sur le terrain, il ne se passait rien. La vie quotidienne de l'Europe à 28 continue, hein, avec ses réunions sur les quotas de cabillaud ou le prix du téléphone. Ça, c'est sur le devant de la scène, mais en fait, en coulisses, ça turbine. Les 27 restants se préparent très activement au déclenchement des hostilités. Des équipes ont été désignées et elles travaillent d'arrache-pied. Je peux vous dire que certains négociateurs ont déjà de grands cernes noirs sous les yeux, ça promet. Ils ont dû partir de zéro car rien n'avait été préparé et ils tâtonnent parce qu'ils ne savent pas quel type de divorce Londres va demander. Donc ils se préparent à toutes les options possibles. Alors ça se passe à Bruxelles mais aussi dans les capitales. Le français Michel Barnier, Mr Brexit pour la Commission européenne, va faire une tournée des 27 pays ces prochaines semaines. Une manière d'avoir une idée précise de leurs inquiétudes et de leurs lignes rouges.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles.
Europe Midi.
Il est 13h05 sur Europe 1, c'est l'heure du débat d'Europe Midi avec vos invités Maxime et bien sûr toutes vos questions et réactions sur Twitter avec le hashtag 1 midi ou au 39-21, 50 centimes la minute.
Et voici le débat du jour, peut-on se balader en toute sécurité sur Internet? Question que nous posons après la découverte d'une immense faille de sécurité. Des hackers ont réussi à pirater 500 millions de boîtes mail Yahoo. Pour débattre avec nous en studio, Nicolas Arpajan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en cybersécurité, directeur scientifique de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, j'ai tout dit. Et face à vous, Alexandre Billot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de CNetFrance.fr. Ma première question, elle est pour vous. Nous, qui ne sommes pas spécialistes, on a un peu de mal à comprendre comment une entreprise aussi énorme que Yahoo a pu voir 500 millions de ses comptes pirater.
Alors, il faut déjà savoir que c'est un contre-coup d'une attaque massive qui a eu lieu en 2012 et qui a touché Yahoo, LinkedIn, MySpace, donc différents grands groupes, oui. des champions de la tech. Et c'est le contre-coup. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 2012, il y a eu une grande faille sur tous ces services-là. Et ce qui a été pointé à l'époque, c'est un système de cryptage. Les cryptages de données, votre adresse mail, votre mot de passe sont cryptés. Cet algorithme de cryptage, pardon, n'était pas assez solide. Voilà. Et a priori, cette affaire Yahoo qui ressurgit, c'est un contre-coup de cette affaire de 2012.
C'est une conséquence. Comment vous expliquez-vous, Nicolas Arpajan, qu'une entreprise aussi énorme et qu'on imagine parfaitement sécurisée se fasse piéger comme ça?
Alors déjà, il faut donner une prime à l'attaquant. Celui qui attaque maîtrise l'agenda, le mode opératoire, puisque en fait, vous voyez l'attaque une fois qu'elle a réussi, mais vous n'avez pas forcément tout le rétro-engineering, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre en amont, qui peut avoir pris un certain temps. Et donc, évidemment, c'est d'autant plus spectaculaire qu'on n'en voit que le résultat. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'interroger sur l'organisation interne de la maison Yahoo. Un peu si on fait l'analogie avec un bateau. Vous savez, on a appris après le Titanic qu'il fallait mettre des cloisons étanches de manière à ce que quand il y a une voie d'eau, ça ne se communique pas à l'ensemble de la coque et ça évite ainsi au bateau de couler. Là, c'est la même chose. Est-ce que des bulles de confiance, est-ce que une organisation isolée, de manière à ce que, dès lors qu'un pan de l'organisation est piraté, que ça ne permette pas aux pirates de circuler dans l'intégralité de la base de données?
Pour être très pratique, que doivent faire ceux qui nous écoutent, qui ont un compte Yahoo et qui, comme Anissa par exemple, ont vu apparaître ce matin un petit message sur leur boîte mail qui leur dit « vous êtes susceptible d'avoir été piraté ».
Changer de mot de passe en utilisant un mot de passe le plus long, le plus alphanumérique, c'est-à-dire des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, et surtout à usage unique, c'est-à-dire qu'elle ne doit servir qu'à ce compte Yahoo. S'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'ils encourent? C'est un peu comme si vous avez un appartement avec votre trousseau de clés, mais que votre trousseau de clés est également dans la nature. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que l'autre personne peut rentrer dans votre appartement et lui-même changer la serrure. C'est-à-dire que si la personne qui a les coordonnées de votre compte peut modifier, c'est vous-même qui resterez à la porte de votre compte.
Vous êtes piégé à l'extérieur
et n'aurez
de votre
plus accès,
mail.
Voilà, puisque vous n'êtes pas plus légitime après tout que l'autre personne qui a votre mot de passe.
Et pendant ce temps-là, il peut aller grignoter ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, il peut l'utiliser pour l'usurpation d'identité. Regardez si, par exemple, vous avez eu la bonne idée d'envoyer un RIB à l'un de vos interlocuteurs, si vous avez donné vos coordonnées de santé, c'est-à-dire votre numéro de sécurité sociale, plus vos photos et autres relations intimes épistolaires que vous auriez pu développer.
Et je sens qu'Anissa commence à trembler.
Pour apporter un petit complément, et surtout vous rassurer, dans le cas de Yahoo, les données personnelles sont des données assez classiques qu'on trouve sur les fichiers de télémarketing, malheureusement, très fréquemment, c'est-à-dire le nom de famille, le prénom, le mot de passe, évidemment, peut-être le numéro de téléphone, mais pas de données bancaires. Et concernant le mot de passe précisément, donc voilà, le principal problème, il est crypté. Donc il faut vraiment cibler, donc vous ciblez précisément pour espérer avoir votre mot de passe et éventuellement, et c'est là ce qui est intéressant ce que dit monsieur, c'est que si vous avez utilisé le même mot de passe pour autre chose que Yahoo, ce qui est malheureusement assez fréquent et qui est une très mauvaise pratique.
Ah oui, là, bon, en même temps, on peut pas avoir 30 mots de passe en tête.
Alors justement, ce qui est intéressant, il y a la théorie qui est justement d'avoir des mots de passe de plus en plus complexes et surtout différents selon le service. Il y a l'usage. Comment on fait pour avoir des mots de passe différents et surtout s'en souvenir? Alors, il y a des moyens mémotechniques. Moi, j'en utilise un personnellement.
Ah, découvrir votre mot de passe.
Alors, justement, c'est ça la petite astuce. Vous avez un texte d'une chanson que vous connaissez par cœur.
Oui.
Eh bien, vous allez prendre chaque lettre de mot, d'un mot, pour concevoir votre mot de passe. Tout simplement. Voilà. Vous avez un texte et vous gardez la première lettre de chaque mot. Et en faisant cette addition de mots, vous avez un mot de passe complexe.
Sur chaque site.
Et vous avez une chanson.
Une chanson par site.
C'est un moyen comme un autre. Vous en avez un autre qui est, lui, payant. C'est des solutions de gestionnaire de mots de passe.
Oui.
Donc, c'est des services type Dashlane. Alors, je ne vais pas faire de publicité, donc je vais en citer plusieurs.
C'est trop tard.
Il y a Dashlane et LastPass.
Oui.
C'est des solutions qui sont payantes ou gratuites. Et en fait, qui vous permettent de générer automatiquement un mot de passe et surtout de le conserver.
D'accord.
Bon. Pour chacun de vos services.
La question qui se pose juste derrière, c'est que quand on voit que une entreprise qui gère comme ça des millions, voire plus d'un milliard de boîtes mail se fait piéger, on peut quand même être inquiet pour toutes ces entreprises à qui on confie nos numéros de carte bleue assez régulièrement pour faire des achats sur Internet. Est-ce que ça, c'est plus sécurisé qu'un compte Yahoo?
Alors, effectivement, là, il y a déjà une réglementation. Quand vous avez des données personnelles, il va falloir, d'autant plus on a eu en Europe, si on prend le marché européen, l'adoption d'un règlement sur la protection des données qui impose des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé, ce qui, vous imaginez, alors il est plafonné tout de même, mais en tout cas d'avoir des sanctions financières. Alors, c'est pas glorieux comme motivation et comme incitation pour les entreprises, mais c'est de leur dire, si vos clients se retournent contre vous et demandent des sanctions, ils obtiendront des contraventions, enfin le fait que vous ayez à payer les sommes, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui maintenant est considéré comme étant un actif stratégique, ces données personnelles, et donc il y a un lourd règle juridique à la clé.
Vous dites stratégique parce qu'on imagine que si dans un des grands comme Amazon, Google, etc., si on découvre une faille dans la gestion des numéros de carte bleue, c'est une catastrophe apocalyptique pour eux.
Oui, parce que c'est un manque de confiance, et effectivement le fait qu'à un moment les gens peuvent être réticents à avoir justement recours à ce type de service. La deuxième chose, c'est effectivement le risque de poursuite judiciaire. Il y a quelques mois, on a eu un fabricant de jeux pour enfants qui s'appelle VTech, dont le fichier client avait été piraté. C'est-à-dire le fait que les gens avaient inscrit les coordonnées de leur enfant, leur date de naissance, nom, prénom, adresse, etc. Bon, il s'avère que ce fichier-là a été piraté. Et on a vu émerger, c'était la première fois de manière un peu conséquente en France, ce qu'on appelle une action de groupe, les class actions. C'est-à-dire lorsque vous réunissez des victimes et qu'elles se coalisent pour poursuivre l'entreprise. Là, en l'occurrence, c'est l'UFC Que Choisir, qui a coalisé les demandes des familles. Et donc, on va attendre de voir ce que ça fait une entreprise qui s'est fait pirater et à qui on en demande des comptes.
Et qui se fait attaquer derrière en justice. Alexandre Billot, vous allez faire vos courses sans aucun problème sur Internet?
Je fais mes courses, je sélectionne surtout mes distributeurs.
Oui.
Et je pense qu'encore une fois, cette affaire a le mérite de mettre en lumière les règles de bon sens de consommation, donc de changer son mail, mais également de vérifier là où on achète, les sites. Vous savez, quand vous allez sur un site marchand, la première chose à vérifier, c'est dans l'URL, vous savez, l'adresse du site, si c'est bien HTTPS. Si
les protocoles, pour sécuriser.
Absolument. Si les protocoles de paiement, notamment via votre banque, sont bien mis en place. Généralement, les banques mettent... quasiment toutes les banques françaises proposent des solutions de vérification après l'achat, via un SMS, via une vérification sur votre téléphone. Voilà, encore une fois, pour s'assurer d'avoir des données protégées, c'est la multivérification. Donc voilà, l'acte unique sera toujours un peu problématique. En croisant les données, en croisant les pistes, ça sera beaucoup plus rassurant.
Vous parliez à l'instant de notre numéro de téléphone et de plus en plus de comptes. Et c'est le cas, par exemple, de Yahoo, qui demande à ses utilisateurs d'entrer leur numéro de téléphone. Est-ce que vous le faites, ça, Nicolas Arpagian?
Alors, il s'avère que moi, je n'ai pas choisi Yahoo, justement, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que la question était aussi de se dire que, de toute façon, il va falloir considérer que là, vous ne pouvez pas transférer de manière totalement innocente la sécurité. C'est aussi l'usage. C'est vrai dans les entreprises. Lorsque l'on dit, voilà, lorsque je suis au bureau et je clique sur une pièce jointe, j'engage la responsabilité de mon entreprise. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, un logiciel malveillant, c'est quelque chose qui peut être utilisé par quelqu'un qui n'est pas forcément l'auteur, d'ailleurs, du logiciel. Mais, en fait, vous pouvez trouver trouver des logiciels à la location. C'est-à-dire que vous allez exactement les utiliser pour un usage ponctuel. Vous n'êtes que consommateur, en quelque sorte, de ce logiciel malveillant. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que ce n'est pas uniquement l'affaire des personnalités, des gens riches, des gens établis, socialement performants. Non, bien sûr, aujourd'hui, toutes les données ont de l'importance, notamment pour l'usurpation d'identité ou pour éventuellement faire de l'ingénierie sociale pour, à partir de votre compte, essayer de voir, de rentrer chez votre employeur ou chez le commanditaire de votre employeur.
Voilà, prudence en tout cas, et on rappelle à ceux qui auraient un compte Yahoo et aux autres d'ailleurs de changer régulièrement leur mot de passe. C'était votre conseil à vous deux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu débattre aujourd'hui. Alexandre Billot, rédacteur en chef de CNETFrance.fr, et vous, Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité. Je donne le titre d'un des livres que vous avez publié. Que sais-je, sur la cybersécurité justement. Merci à tous les deux d'être venus en direct avec nous sur Europe 1. Rebonjour Elena Mornin.
Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui on parle des couples qui vont mal. Hein Max?
Non mais arrêtez.
Parmi ceux qui ont subi une thérapie de couple, un sur trois a retrouvé une vie harmonieuse, donc ça vaut la peine. Ça peut marcher. Enfin, combien ça coûte?
Un sur trois,
c'est déjà pas mal.
C'est déjà mieux que rien.
Bon. Combien ça coûte? Comment ça se passe? Vous êtes passé par là? Vos questions, vos témoignages, 3921europe1.fr, hashtag la famille E1 ou notre page Facebook, la famille Europe 1. Vous pouvez participer, messieurs. Vous avez des questions?
Et le site Europe 1 est sécurisé, c'est HTTPS. Ah,
la famille Europe 1, tout de suite. Merci beaucoup, Anissa, à lundi.
Bon week-end à lundi, c'était Maxime Switek et rendez-vous lundi à midi et demi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.